France Culture, les romans qui ont changé le monde, Mathias Hénard.
Les romans changent-ils le monde ? Pendant deux semaines, nous explorons 10 œuvres dont on peut assurer qu'elles ont changé quelque chose à la littérature et au 20e, voire au 21e siècle, en compagnie d'autrices, d'auteurs, de spécialistes de la littérature d'Europe et d'ailleurs. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous poursuivons notre voyage dans les romans qui ont changé le monde en 1983, année de la publication en France du récit « Enfance » de Nathalie Sarraute, alors âgée de plus de 80 ans. « Enfance », c'est le torpillage de l'autobiographie. Dans ce dialogue avec elle-même, la grande Nathalie Sarraute raconte les premières 11 années de sa vie entre Moscou, Pétersbourg, Genève et Paris. Les deux voix qui appartiennent autant l'une que l'autre à Nathalie Sarraute, tissent la valse de la reconstruction. Des torrents de souvenirs s'enroulant les uns autour des autres pour parvenir à l'impossible équilibre de la mémoire. Enfance, c'est la tentative de faire surgir du langage cet autre état de la langue que nous appelons souvenir, où se trouve la réalité de la mémoire. Pour évoquer ce texte clé de l'écriture autobiographique, nous avons avec nous deux femmes de lettres, une dont la voix est très familière aux auditrices et auditeurs de France Culture. Bonjour Colette Fellous.
Bonjour Mathias Hénard.
Colette Fellous, vous êtes écrivaine et avez longtemps produit sur France Culture Les Nuits Magnétiques et Le Carnet Nomade, romancière, essayiste. Vous dirigez aussi la collection 13 et portraits que vous avez créée au Mercure de France. Et votre dernier ouvrage s'intitule Le Petit Foulard de Marguerite D et est paru aux éditions Gallimard. Ce qui vous rapproche peut-être de notre seconde invitée, à part bien entendu une passion commune et dévorante pour la littérature, c'est peut-être Roland Barthes. Tiphaine Samoyeau, vous êtes une éminente spécialiste de Barthes. Vous lui avez consacré une biographie parue aux éditions du Seuil. Vous êtes aussi enseignante, chercheuse, essayiste, écrivaine. Vous êtes aujourd'hui directrice de recherche à l'École des hautes études en sciences sociales et êtes la feuilletoniste du monde des livres. Votre dernier ouvrage paru l'a été en 2022 dans la collection Fiction et compagnie des éditions du Seuil et s'intitulait « Traduction et violence ». Mais pour commencer notre voyage dans l'enfance de Nathalie Sarraute, écoutons, si vous le voulez bien, comme chaque matin, un premier extrait du texte lu par la comédienne Élodie Hubert, « Enfance » donc, de Nathalie Sarraute.
Je peux courir, gambader, tourner en rond. J'ai tout mon temps. Le mur du boulevard Port-Royal que nous longeons est très long. C'est seulement en arrivant à la rue transversale que je devrais m'arrêter et donner la main pour traverser. Je devance la bonne pour avoir le temps d'emplir mes poumons, ce qui me permettra de ne pas respirer l'atroce odeur. Elle me donne aussitôt la nausée qui se dégage de ses cheveux imbibés de vinaigre. Ainsi, je pourrais lui donner la main comme si de rien n'était, sans risquer de la vexer. Ce n'est même pas sûr qu'elle se vexerait. Elle est très gentille et très simple. Elle sait que ce n'est pas ma faute si je ne supporte pas l'odeur du vinaigre. Mais elle, ce n'est pas sa faute non plus si les sorties à l'air frais lui donnent des maux de tête dont seul le vinaigre la préserve. Il a donc été convenu que je pourrais me tenir assez loin d'elle, sauf bien sûr pour traverser. La voici qui s'approche, une masse informe, la tête recouverte d'un fichu grisâtre. Elle me rejoint, elle tend sa main et je mets ma main dans la sienne. Mes poumons sont pleins d'air, je n'ai pas besoin d'aspirer. Je ne respire pas jusqu'au moment où nous posons le pied sur le trottoir de l'autre côté de la chaussée. Là, aussitôt, je lâche sa main et je file. S'il arrive par malheur que je n'ai pas assez d'air pour tenir tout au long de la traversée, il est hors de question que je mette la main sur mon nez. Elle me l'a permis pourtant, mais il m'est impossible de le faire. Je peux juste aspirer par minuscules bouffées en détournant la tête, mais sans trop la détourner. Cela pourrait lui faire deviner la répulsion produite en moi. Pas par elle, pas par ce qu'elle est, pas du tout par ce qu'il y a en elle, mais seulement par ce qui apparaît parfois sous son fichu entrebâillé, la peau luisante et jaunâtre de son crâne entre les mèches de cheveux trempés.
Nous venons d'entendre Élodie Hubert nous lire un extrait d'Enfance de Nathalie Sarraute, un extrait où on entend bien justement tout le projet du roman, qui est cette reconstruction à la fois sensorielle, visuelle, de cet essai en tout cas de se remettre dans ses habits d'enfance, si j'ose dire, Colette Fellous.
Oui, c'est vraiment, c'est presque toujours chez Nathalie Sarraute, dans ses autres œuvres aussi, mais là particulièrement, c'est la recherche exacte à la fois d'un mot, d'une sensation, d'un dialogue intérieur. Là, on a bien vu le dialogue intérieur. La petite fille avec elle-même aussi, qui se dit, ça sent le vinaigre, je vais m'éloigner. Et tout ce livre est vraiment la recherche d'instants qui restent, en fait, en elle, dans son corps. Et c'est quelque chose qui me touche beaucoup, qui touche tout lecteur ou lectrice, c'est qu'elle a écrit à 83 ans. Vous l'avez dit, Mathias, elle a écrit tard. Et ça rappelle aussi son premier livre, Tropisme, qui était aussi des petits tableaux comme ça. Et elle reprend toujours, dans tous ses livres en fait, cette recherche exacte, peut-être pas de la vérité, parce qu'on ne sait pas ce qu'est la vérité, mais elle voudrait vraiment retrouver la réalité de ses yeux d'enfant. Et toutes ces scènes entre Paris, Pétersbourg, pour moi c'est comme le travail, même si ça ressemble pas du tout, le travail de Proust, enfin l'écriture de Proust, qui disait, vous vous souvenez, dans un entretien en 1913, où il disait que ce qu'il avait voulu, quand il parle de la Madeleine et de la tasse de thé, il dit retrouver en soi des années, des jardins et des êtres oubliés. Et chez Sarraute, on va retrouver tout ça. Des lieux, des visages, des sensations, et hors chronologie. Hein, c'est ça qui me plaît aussi, c'est vraiment son temps retrouvé.
Alors ce qui est fascinant dans le projet d'enfance, c'est peut-être justement que c'est une autobiographie, bon, d'abord très limitée, puisque c'est ce qu'elle considère comme étant son enfance. On va voir que ça s'achève justement sur la fin de l'enfance, c'est-à-dire de cette période jusqu'à ce qu'elle ait 11 ans, donc au tout début du XXe siècle, et un projet qui ne passe pas par une reconstruction chronologique, mais justement par quelque chose de fragmentaire qui ressemble beaucoup à la mémoire Tiphaine Samoyo.
Oui, absolument. Colette Fellous soulignait l'importance de la sensation et la ressemblance aussi de ce texte-là avec le projet des tropismes, donc ces sensations un petit peu indistinctes que l'écriture doit chercher à mettre au jour. Mais la particularité d'enfance, c'est que ces souvenirs très anciens, très lointains, sont presque devenus informes. Sont informes aussi parce que ils sont sans langage. Et donc, il va y avoir tout l'effort pour mettre des mots sur ce qui n'a pas de mots, ou ce qui n'a plus de mots, ou ce qui n'a plus de contours. Donc, il y a une grande insistance dans le texte sur le flou, sur le ouaté, sur comme ça des qualités sensibles. Qui sont des qualités sensibles qui correspondent à cette indistinction du souvenir. Donc ça rend presque toute l'écriture sarrautienne peut-être encore magnifiée ou poussée à l'extrême de sa subtilité dans ce livre-ci. Donc le projet est celui-là, et pas du tout de reconstituer, ça c'est la grande peur qu'elle a, et donc le dialogue, alors la forme... Vous en avez un peu parlé, Mathias Sénard, mais la forme, est, il faut le rappeler, assez particulière, puisque dans de nombreux passages, et en particulier dans le début du livre, mais aussi très régulièrement dans la suite, le jeu de la narratrice se souvenant et cherchant à capter ses souvenirs est parfois contredit, parfois rectifié par un « tu », qui est une voix, on dit parfois son double, c'est pas tout à fait ça, c'est une sorte de voix intérieure qui s'extériorise, justement pour préciser parfois un souvenir, mais pour mettre en garde aussi contre le danger de la reconstitution ou de la restitution ou du faux qui frappe tant d'autobiographies ou tant de récits d'enfance, selon Sarraute elle-même. Elle le dit dès le début du livre, cette tentation du beau souvenir, du souvenir préfabriqué, des souvenirs même que les parents construisent pour les enfants, hein, pour les inscrire dans une norme du bonheur. Et donc, il y a la volonté de lutter contre la tentation du genre autobiographique, tout simplement. Hein. Donc, c'est aussi pour ça que c'est un texte qui révolutionne véritablement, là, pour le coup, la littérature.
Mais vous venez d'énoncer aussi la contradiction même de ce texte, alors qui est peut-être féconde, mais qui est réelle. C'est-à-dire que, de toute façon, et c'est ce qu'elle admet elle-même dans ses deux voix, forcément... La voix de la petite fille qu'on vient d'entendre, celle qui dit « je », est forcément celle de la dame de 80 ans qui écrit. Il n'y a pas de possibilité de retrouver la voix de l'enfance. Et même, il y a un passage dans lequel elle se fait cette réflexion en disant « mais ces souvenirs que j'ai aujourd'hui, ils ont été transformés, bien évidemment, par le souvenir de moi, les écrivant. » C'est-à-dire cette transformation immédiate de « moi me rappelant aujourd'hui, c'est impossible de faire sans cela. » Et donc, ce projet, elle en est même consciente, est forcément voué à l'échec d'une certaine façon, en réalité.
Oui, c'est très beau ce dialogue, parce que on a l'impression qu'il y a quelqu'un derrière son épaule, comme ça, qui, qui lui dit, mais attends, là, quand tu avais 4 ans, tu avais vraiment ce raisonnement, là? Et elle dit, non, non, bien sûr. Et c'est sans arrêt, ce dialogue émande aussi l'appel des souvenirs, hein, comme si, enfin, des souvenirs, elle aime pas trop ce mot, mais elle dit d'ailleurs souvent, je vais chercher les mots très loin, qui sont très loin de moi, pour les ramener ici. Et c'est ça aussi écrire. En tout cas pour elle et puis pour beaucoup d'écrivains, c'est aller chercher au fond du fond du fond du fond des choses, comme dit Tiphaine, qui sont encore floues, et on va les sculpter, on va les rendre forts. Et ce qui est beau, c'est qu'elle s'apitoie jamais non plus sur ce qu'elle raconte, même si c'est des scènes très violentes parfois, où elle est humiliée, où elle est étonnée, enfin d'une façon où elle a peur, mais elle dit jamais « j'ai peur », elle veut pas ça. Elle veut que le lecteur ait cette sensation aussi, ce sentiment, mais elle reste au plus près de ce qu'elle a été un jour enfant.
Oui, et puis un autre paradoxe qui est qu'elle refuse que le langage fige le souvenir. Alors que c'est paradoxal quand on est écrivain de refuser que les mots arrêtent une image. Et donc tout son travail va consister à mettre du mouvement de la vie, en fait, dans ce passé, et d'essayer d'être au plus près de ce qui la faisait bruire ou de ce qui l'animait à cette époque-là. Et donc, elle va utiliser beaucoup de synonymes. Il y a beaucoup de moments où elle cherche le mot juste, mais ça passe par de très patients détours. Il y a une ponctuation aussi de l'hésitation, de la déchirure. Et tout ça contribue précisément à éloigner cette enfance du récit d'enfance.
Écoutons Nathalie Sarraute justement nous parler elle-même de ce projet de l'écriture d'enfance.
À force de me rappeler, des souvenirs sont revenus et d'autres encore qui sont absolument réels. Et ce qui m'a intéressé, c'est de montrer comment s'est installée une idée fixe ou alors cette folie du sacrilège. Au fond, c'était ça. Comment ça travaillait à l'intérieur et qu'est-ce que c'était? Alors, je l'ai travaillé en essayant de faire revenir les sensations véritablement vécues, comme par exemple, quand je lui ai dit, après, ça devenait de plus en plus fort, d'abord tu es moins belle que la poupée de coiffeur, et comme c'était un crime de l'avoir pensé, alors essayer de se dire, mais c'est moi qui ai tort, elle est peut-être tout de même plus belle, alors je faisais revenir l'image de la poupée de coiffeur, il n'y avait rien à faire, la poupée de coiffeur, si belle que fut maman, la poupée de coiffeur, d'après mes critères, était plus belle.
Elle était plus belle, elle était plus parfaite.
Oui. Elle était plus parfaite, elle était la perfection même. Et alors après ça, puisque c'était un crime et que c'était défendu, un démon faisait venir d'autres idées beaucoup plus folles encore qu'elle avait la peau d'un singe, l'impulsion du sacrilège. Et à la fin est venue cette souffrance atroce avec l'idée qu'elle ne donnait pas assez de viande à la bonne, et je crois que j'aurais pu devenir folle parce qu'à ce moment-là, l'idée m'occupait complètement. J'avais ce que j'appelle mes idées qui étaient comme des maladies, et je crois que si je ne m'étais pas séparée d'elles, je ne sais pas, je ne serais pas devenue un enfant complètement fou.
Nous entendons Nathalie Sarraute elle-même dans une archivina nous raconter un peu justement comment ce projet en soi est indissociable de la matière des souvenirs. C'est-à-dire que c'est presque son enfance qui donne la forme de ce récit, Colette Fellows.
Oui, c'est ça. Et quand elle parle de cette scène où elle a vu une poupée alors qu'elle était avec sa mère et pour la première fois, elle a trouvé quelqu'un de plus beau que sa mère et qu'elle n'ose pas le dire, mais elle le dit. Et il y a là aussi tout ce dialogue. Et c'est toujours aussi les intonations qui comptent chez Sarraute. Hein, on le sait dans Pour un oui, pour un non, elle a fait tout un livre là-dessus. Sur sa voix d'ailleurs, en écoutant cet extrait, je m'aperçois qu'elle a une voix très très jeune. Donc elle avait plus de 83 ans, là, puisque c'est au moment de la sortie d'enfance. Et elle a toujours été, même petite, quand elle joue à la maîtresse, vous savez, elle imite avec ses cocottes en papier, elle fait des cocottes, et puis ce sont les élèves, elle les appelle, elle fait ses devoirs en faisant, comme beaucoup d'enfants, hein, en jouant à la maîtresse, et elle imite toujours la voix du professeur, et en même temps, derrière la voix, il y a le caractère, toujours. Une élève qu'elle trouve un peu bête ou un peu idiote, une autre prétentieuse. Et c'est comme une collection comme ça de personnages, en fait, qu'elle a toujours été sensible à ça, en fait. Depuis petite, elle a eu ça. Et l'intonation, c'est quelque chose qu'elle ne lâchera pas dans toute sa vie, jusqu'à son dernier livre. Hein. C'est vraiment ça. Les mots ont une intonation, les mots sont vivants, sont des êtres vivants qu'il faut appeler parce que ils vont ressusciter, en fait, d'autres mots, d'autres scènes qu'on a en soi. Et ça dépend comment on les entend, comment on les a prononcés, comment on les a entendus. Et à chaque fois, c'est une fiction presque, une nouvelle fiction et un souvenir.
Oui, je crois aussi que bah, ces mots qui sont des personnages, qui sont des êtres vivants, ces intonations comptent d'autant plus qu'elles cherchent à éviter toute psychologie. Donc dans cette scène par exemple qu'on vient d'entendre, qui en réalité est une scène aussi assez violente dans le doute qu'elle a sur l'affection mutuelle que se portent l'enfant et sa mère, hein, qui vont bientôt être séparés, eh bien, plutôt que de parler de cette relation, de l'évoquer dans des termes qui feraient nécessairement appel à des catégories psychologiques, eh bien, elle va faire jouer, comme ça, une idée, un ton, qui convoqueront de manière extrêmement puissante la difficulté du rapport qu'elle a avec sa mère. Et que forcément, dès qu'on essaye d'en parler, nous-mêmes, on devient psychologue, et alors qu'elle ne l'est jamais à aucun moment. Donc on sera toujours un peu maladroit à parler d'une telle œuvre qui est poignante de ce point de vue-là, parce que, et là, la comparaison avec Proust que Colette faisait tout à l'heure est très juste, c'est-à-dire qu'elle fait vraiment se lever ce passé comme s'il était absolument présent, vivant, qu'on pouvait le toucher presque. Et donc j'aimerais peut-être continuer sur la violence de cette relation avec sa mère, malgré tout, parce que même si on est obligé d'utiliser des catégories un peu psychologiques, mais qui rend le livre extrêmement poignant. Et moi je trouve que c'est un livre très pathétique, en fait. Je trouve pas que ça soit un livre discret, de ce point de vue-là. C'est un livre, moi j'ai souvent pleuré en fait en lisant ce livre, surtout à certains passages. Mais plutôt que de mettre en scène ses souvenirs comme pathétiques ou violents, elle va aussi les symboliser. Et c'est presque ça qui est le plus poignant. Donc c'est une enfance déchirée entre deux pays, entre deux langues, entre deux parents qui sont séparés. Déchirée également parce que marquée par la séparation en permanence. Et donc, tout le livre va être scandé par des images de la déchirure. Hein. C'est la première scène où elle tranche dans la soie d'un fauteuil et voit s'échapper, justement, donc c'est très métaphorique aussi, des duvets, tout ce qui est des poussières qui se trouvent donc dans le bourrage du fauteuil et qui vont être ces petits fragments d'enfance qu'elle va redistribuer après, qu'elle va semer tout au long de son livre et qu'elle va essayer de caractériser. Mais il y a aussi beaucoup d'autres moments où les ciseaux interviennent, où les papiers sont découpés.
Peut-être quelque chose pour les auditrices et les auditeurs, de quelle enfance est-ce qu'il s'agit ? C'est-à-dire qu'on est au début du siècle, on commence en Russie, elle est russe, ses parents se séparent, chacun se remarie de son côté, elle vit avec son beau-père Kolia et sa mère. Et
à Saint-Pétersbourg.
À Saint-Pétersbourg. D'ailleurs, là, vous parliez de cette poussière blanche qui s'échappe du fauteuil, c'est aussi la présence de la neige et des paysages.
Très beau, ça.
Le blanc est aussi quelque chose qui est extrêmement présent dans cette enfance. Et donc, effectivement, elle a ce rapport à la fois tendre avec son beau-père, Kolia et sa mère, et en même temps, cet appel un peu du père.
Elle est déchirée.
Déchirée, mais en même temps, si je peux me permettre de revenir sur ce que vous disiez, en parlant de Proust, c'est absolument pas les mêmes moyens. C'est-à-dire que presque, elle est presque anti-proustienne au sens où elle n'utilise pas du tout un narrateur contemporain extrêmement compassé qui se souvient. Là, on est beaucoup plus Nathalie Sarraute en ce sens où elle a des moyens presque structurels qui sont liés à une autre image de la littérature. Donc celle de Proust, c'est pas une.
Non, c'est une grande lectrice de Proust, quand même.
Oui, bien sûr.
Mais son projet n'est pas du tout le même. Hein. Mais, je veux dire, stylistiquement, ça n'a aucun rapport, hein, c'est vrai.
Et est-ce que ces fragments, justement, de morceaux de souvenirs, qui, donc, on l'a dit, sont pas chronologiques, sont liés, mais on suit pas, disons, il n'y a pas un fil d'un narrateur qui nous remplirait les vides, on va dire. Est-ce qu'ils sont pas, justement, plutôt à l'image du souvenir lui-même, de la part manquante, de ces blancs.
Oui, c'est très musical aussi. Je trouve que le livre s'orchestre lui-même. Hein. On sait qu'on va passer de Paris à la Russie. On sait qu'on va trouver des bonnes, on va trouver des paysages, des maisons. Alors elle parle beaucoup des maisons, des lieux, avec un grand sens aussi du détail, hein, de l'ambiance comme ça, à la fois des maisons près du Luxembourg, les jardins aussi du Luxembourg, où elle parle en détail aussi de la joie. À un moment, il y a une joie avec un petit mur de briques roses au Luxembourg. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette... C'est extraordinaire, ça, parce qu'elle parle des petites fleurs et tout. Et tout à coup, quelque chose qui monte en elle et qui est de la joie. Et comme dit Stéphane, en fait, c'est vrai que le livre est très poignant parce qu'elle affronte comme ça sa belle-mère, on peut dire, hein, qui s'appelle Vera, mais qui n'est pas toujours très gentille avec elle. Mais elle essaie toujours de voir le bon côté, comme on dit. Elle essaie de surmonter les choses. Toute petite, on voit toute cette puissance qu'elle a eue, en fait, pour surmonter, pour se dire, en fait, ça va. Elle quitte sa mère, elle trouve que sa mère l'abandonne, presque, mais c'est pas grave, elle a pas plus besoin d'elle, vraiment. Elle dit ça, mais c'est pas vrai, en fait. Elle a ce manque, hein, cette part manquante des deux côtés. Mais quand elle est avec son père et que sa mère n'est plus là pendant longtemps, pendant 2 ans, pendant plus de 2 ans,
plus, 3 ans,
et elle s'approche du père, du visage du père, elle le caresse, elle trouve qu'il est bon, il y a beaucoup aussi de cette douceur, hein, ce mot douceur qui revient. Il y a ces choses flottantes et opaques, mais il y a toujours cette douceur, cette bonté aussi. Mais elle a aussi ce petit côté cruel quand même. Elle a cette ambivalence qu'ont les enfants, en fait. Même avec son père aussi, parfois, elle...
Oui, mais c'est peut-être justement un des coups de génie du livre, c'est de parvenir à nous faire ressentir vraiment d'où les enjeux très forts qu'il y a dans cette vie d'enfant et dans cette enfance, par ces petites choses qui prennent à l'époque une importance extraordinaire, la soupe, le fauteuil, les livres, les jeux, les personnages, sans jamais justement insister sur une quelconque psychologie ou revenir, comme le ferait Proust par exemple, sur le souvenir pour le commenter et l'expliquer. Ça, c'est ce qu'elle fait très peu, mais avec la voix, la deuxième voix qui est la sienne, mais jamais pour essayer de donner un sens à ce qu'elle vient d'expliquer, en tout cas.
Non, mais effectivement, le style n'est pas du tout celui de Proust, c'est pas ce que je voulais dire. C'est la manière dont l'écriture parvient, avec de tout autre moyen certes, mais parvient à rendre extrêmement présent ce souvenir, le susciter au sens propre, comme on ferait vraiment revivre un mort, comme on ferait revivre ou qu'on retrouverait un objet enfoui, perdu, et qu'on lui redonnerait aussi son usage. Alors, quand vous dites que ça n'est pas chronologique, alors effectivement, il n'y a pas une volonté de dater ces souvenirs, hein, puisque notre mémoire, date assez maladroitement et souvent avec beaucoup d'erreurs. Il y a quand même une continuité, des temps, des moments dans cette enfance, et ces moments sont caractérisés par des changements de lieux. Donc il y a aussi une grande présence des trains, des hôtels, des lieux de transit où les parents donc se refilent l'enfant pendant l'été et après de manière beaucoup plus longue et beaucoup plus définitive. Et donc c'est aussi cette Europe qui est reliée par le train et qui est également extrêmement présente, dans laquelle on parle beaucoup de langues également, parce que c'est très important aussi, ces langues. Hein, on avait oublié peut-être au moment où Enfance a été publiée que Nathalie Sarraute n'avait pas le français comme langue maternelle. Et là, on le comprend très très bien, et la langue russe est très présente dans le texte, mais aussi la langue allemande, hein, parce que donc dans ces enfances européennes, bourgeoises, on apprenait beaucoup de langues. Donc quand elle se retrouve à Paris, elle a déjà eu une bonne qui parlait français, qui lui avait appris le français, donc elle évoluait comme ça entre les langues. Mais on sent très vite que ces deux langues forment aussi deux pays, et surtout deux parents séparés. Et donc il y a une scène extrêmement frappante au milieu du livre qui marque une étape dans l'enfance considérable. Donc elle a à peu près 9 ans, dit-elle, où elle va être séparée de sa mère pendant presque 6 ans. Elle la reverra une fois pendant cette période. Et donc elle est dans une chambre d'hôtel. Non, elle est dans un train. Sa mère la ramène et elle pleure dans le train. Et pour se distraire, en fait, elle répète dans les deux langues le mot « soleil » en russe « soltye » Et elle énonce comme ça, qu'elle répète et qu'elle finit par s'endormir en dodelinant de la tête d'une langue vers l'autre. C'est absolument stupéfiant comme passage et également très, très allégorique de sa situation.
C'est justement cette situation des langues qui est effectivement absolument magnifique. Et quand elle hésite entre Slancé d'un côté de l'oreiller et le soleil de l'autre, c'est vraiment effectivement le basculement de cette enfance dans un train qui plus est. Ça pourrait être presque une métaphore de l'Europe en réalité.
Oui,
à travers ses langues.
Surtout qu'après, sa mère la reçoit pas très bien à l'hôtel. Elle attend quand même de revoir sa mère, et sa mère est un peu évanescente. Elle la regarde, et puis elle s'en va le lendemain, en fait. C'est une déception.
Oui, et puis alors après, le conflit, ce qui est intéressant, donc, c'est la fin de l'enfance. Donc il y a cette partie, la petite enfance, donc à Ivanovo, alors qui est toute nimbée, en effet, de neige, d'éclat, de glace, de splendeur. Il y a quelque chose d'assez magique qui, finalement, c'est une enfance qui ne se revoit ou ne se répercute que par les livres d'enfants, les livres d'images. Puis ensuite, il y a une enfance où elle vit entre son père et sa mère. Et puis ensuite, il y a, d'une certaine manière, une fin d'enfance prolongée, ou beaucoup plus grise, où elle vit chez son père à Paris, hein, et donc qui est marquée par une grande dureté, où elle dit, où elle rapporte une phrase de sa belle-mère, « Ce n'est pas ta maison ici », hein, et elle dit à la fin du passage que pendant des années, elle n'en aura aucune autre. Ce n'est pas ta maison ici, elle n'en aura aucune autre. Et un autre passage où elle est entre sa mère et son nouveau mari, Kolia, et elle essaye de jouer, ils sont en train de s'embrasser, et elle essaye de s'immiscer entre eux, et elle se sent, à ce moment-là, comme un corps étranger.
Et ça, c'est un passage absolument clé.
Oui, c'est extraordinaire, ça.
Où elle se rend compte, justement, un jeu amoureux entre sa mère et son beau-père. Elle essaye de prendre une place, en réalité, dans ce jeu-là. Et on l'en exclut. Et ça, ce moment est magique, même sur le plan de la langue, de la façon dont elle a de le raconter, avec justement une grâce et une subtilité proche de la magie. Vous avez évoqué cette enfance et cette bonne à Pétersbourg. C'est la même enfance que Nabokov, en fait.
Oui.
Sauf que Natalia, c'est-à-dire Nathalie Sarraute, n'a pas écrit en russe, que je sache, mais presque elle aurait pu le faire si elle avait eu... poursuivi justement cette vie à la Nabokov, en tout cas. Est-ce qu'ils se sont jamais rencontrés? Est-ce qu'on sait ça?
Non, je ne crois pas. Non, ils ne se sont pas rencontrés.
C'est très curieux quand même, cette coïncidence qui donne d'un côté un écrivain qui écrira en anglais, qui parlait lui aussi parfaitement français, puisque...
Il y a eu une grosse, bien sûr, il y a eu quand même une très importante émigration russe pour des raisons politiques d'ailleurs qui sont évoquées de manière très 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 brève dans Enfance de Sarraute, qu'on pourrait croire un petit peu déconnectée de l'histoire, mais cette histoire réapparaît avec la mort de l'oncle, mort de l'oncle en exil parce qu'il était menacé.
Le frère du père.
Oui. Parce qu'il était menacé par la police politique. Donc, il y a eu tous ces exils politiques dont on fait partie à la fois la famille de Nabokov et celle de Nathalie Sarraute, même si au départ, la famille de Nathalie Sarraute part pour des raisons économiques. Donc, c'est moins politique que dans le cas de Nabokov. Mais Nabokov, on l'a toujours perçu comme un écrivain entre les langues. D'abord, il a commencé à écrire en russe et il a beaucoup joué aussi de son rapport à son bilinguisme. Nathalie Sarraute l'a presque effacé, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que on retrouve tout d'un coup cette idée que, comme beaucoup de grands écrivains, elle n'écrit pas sa langue maternelle. Et elle écrit une langue étrangère, qui a été étrangère.
Et c'est là qu'elle invente, en fait.
Et c'est ça qui est magnifique aussi. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'elle est si sensible à la matérialité. Quand on parle des langues étrangères, on est beaucoup plus sensible à la matérialité des mots, à leur sonorité. Et pourquoi aussi beaucoup d'écrivains qui écrivent dans leur langue maternelle disent qu'ils ont besoin du détour par les langues étrangères pour pouvoir retrouver cette sensation ou cette sensitivité ou cette sensibilité matérielle à la langue.
C'est très beau aussi quand elle raconte quand elle était petite avec sa mère, et il y a un ami de son père qui est là. Bon, il faut dire que c'est toujours des décors. Elle est habillée avec des petits manteaux de fourrure. C'est quand même un milieu social très, très aisé. Et la mère lui dit, va le chercher, va le chercher. Elle dit pas quoi, hein. C'est ça qui est beau chez elle. La vérité arrive peu à peu comme ça. Alors elle ose pas. Elle va le montrer à monsieur. Et en fait, c'est son cahier noir. Finalement, elle prend son courage, à demain. Elle va chercher son cahier noir parce que la mère a dit, ma fille écrit un petit roman, mais elle est toute petite, hein, elle a peut-être 7 ans, je crois, 7-8 ans. et elle le montre à monsieur, elle l'ouvre, et monsieur a l'air très intéressé, alors il doit écrire, ou il est dans le milieu éditorial, et tout, donc elle sait ça, il regarde, il commence à lire d'un air très intéressé, puis après il prend un air fâché, comme ça, il est contrarié, et puis il referme tout, il lui redonne, et il dit, ma petite, quand on veut écrire un roman, il faut d'abord soigner son orthographe.
Avant d'écrire un roman, il faut apprendre
l'orthographe. Et elle le cache, elle va le remettre. Et elle explique plus tard que c'est le seul souvenir qu'elle a raconté. Parce que tous ces souvenirs-là, elle les a évidemment jamais racontés parce qu'ils n'étaient pas sollicités. Et elle dit, je l'ai raconté pour expliquer que j'ai commencé à écrire assez tard.
Oui, alors ce qui est quand même bouleversant aussi dans ce passage, c'est qu'elle dit qu'elle l'a raconté, mais qu'en le racontant, elle s'est protégée, elle s'est inventée une sorte de récit, et elle montre à quel point elle a fabriqué un faux souvenir.
C'est ça.
Et donc ça illustre aussi ce qu'elle dit du souvenir préfabriqué, parce qu'après, elle explique finalement comment... Et elle recherche la manière dont elle a véritablement vécu cette scène, plutôt comme une libération que comme une interdiction. Et comment l'écriture de ses souvenirs d'enfance a fait lever la censure qui avait été projetée sur le faux souvenir. Hein, l'idée freudienne qu'on n'a pas de souvenirs d'enfance est aussi assez présente dans le texte de Sarah.
Et d'ailleurs, elle donne très subtilement une indication linguistique qui nous fait penser que toute cette scène a lieu en russe, puisque elle dit qu'elle appelle cet homme mon oncle, comme on appelait les inconnus les d'un autres, certain âge, mâles, en Russie à l'époque. Donc très certainement, il s'agit d'orthographe russe et pas du tout
d'orthographe française. Après, elle va apprendre à écrire en français lorsqu'elle va être avec son père à Paris, donc beaucoup plus tard.
Donc là, il s'agit du...
Et puis, ce qui est très intéressant aussi dans cette scène, c'est en creux, c'est aussi le rapport à sa mère écrivaine. Parce qu'il faut se souvenir que la mère de Sarote était écrivaine. Et que là, on est en présence
surtout
de la mère...
Surtout pour enfants,
avec...
je crois, oui.
Elle écrivait des petits romans, des romans pour enfants, mais aussi des romans un peu sentimentaux pour adultes, pour un public dit féminin. Et là, elle est en présence de son éditeur. La mère est en présence de son éditeur. Mmh. Et donc, voilà, ce qui se joue en creux, c'est la rivalité. Jamais, finalement, elle n'aura le même éditeur, et jamais, surtout, elle n'écrira en russe comme sa mère, et jamais elle n'écrira des livres comme ceux de sa mère. Donc, c'est ça aussi qui est raconté là.
En fait, toutes ces choses-là qui sont apparemment négatives, ça lui a donné une force incroyable depuis petite. C'est une enfant très forte, qui surmonte tout, hein, qui. Et... Il y a un moment, à la fin, quand elle parle de Rocambole, je crois, ce livre qu'elle lit, il y a toute une page extraordinaire où elle a l'air de décrire Rocambole, mais en fait, elle décrit sa propre vie, où elle dit il affronte des scènes incroyables, mais il est encore plus fort, il arrive à dominer tout, et ça, c'est très, très beau parce qu'elle trace un autoportrait d'elle, mais à travers Rocambole, alors que c'est pas vraiment une œuvre extraordinaire que son père méprise.
Donc Enfance est publié en 1983, et voilà ce qui se passait en 1983 dans la musique pop.
France Culture, les romans qui ont changé le monde. Mathias Sénard.
Nous venons d'entendre ce tube daté de 1983, Baby Jane, signé Rod Stewart. On se demande ce qu'écoutait Nathalie Sarraute en corrigeant ses épreuves. Cette année 1983 est si riche en musique. Michael Jackson avec Beat It et Billie Jean, David Bowie, Let's Dance, ou l'Opus 111 de Beethoven par Ivo Pogorelitch chez Deutsche Grammophon. Et que se passait-il en littérature en 1983? Il me semble que c'est l'année de la publication de Femmes de Philippe Solers, par exemple, la rentrée 83. Comment était reçu Enfance au moment où il est paru, donc en cette année 83, Tiphaine Samoyo?
Il a été reçu de manière exceptionnelle. C'est ce qui a finalement ce qui a consacré sa route, qui à la fois l'a consacré en lui donnant un beaucoup beaucoup plus grand public que précédemment, et puis en l'arrachant aussi à l'étiquette du nouveau roman, parce que même si le livre est absolument cohérent avec toute l'œuvre de Sarraute, il est apparu comme beaucoup plus lisible, hein, sans doute à cause de son sujet. Il est apparu donc beaucoup plus grand public que les textes précédents, alors qu'aujourd'hui on voit que ces textes sont aussi lisibles et qu'on peut y avoir accès précisément par Enfance. Donc elle avait une sorte de consécration qui était une consécration lettrée, on va dire, une reconnaissance qui était liée justement à sa supposée appartenance au groupe du nouveau roman, dont on sait appartenance qui était très stratégique, hein, et qu'elle avait contribué aussi à former pour des raisons stratégiques. Elle était invitée aux États-Unis dans des universités, etc.
Mais pourquoi sa propre stratégie d'auteur, vous voulez dire?
C'était la stratégie d'auteur de Rob Grillet, mais ça a été aussi la stratégie d'auteur de Sarraute. On le voit très bien dans l'édition qui a été faite il y a quelques années, il n'y a pas très longtemps, il y a 2 ans peut-être, des correspondances du nouveau roman, des lettres du nouveau roman, et où on a la publication d'un certain nombre d'échanges entre Rob Grillet, Sarraute, Claude Ollier, Claude Simon, et on voit très bien comment ils ont eu une stratégie de groupe pour essayer de faire connaître leur littérature, affirmer aussi leur conception de la littérature, et que ça a beaucoup contribué à les faire reconnaître, notamment à l'étranger, notamment aux États-Unis, en Angleterre, où la littérature française se résumait au nouveau roman. Bon, ce qui n'était pas le cas en France, parce qu'effectivement, comme vous venez de le dire, il y avait Femmes de Solers ou d'autres, tout à fait d'autres choses, que ça soit du côté expérimental comme du côté grand public. Mais ce qui est intéressant avec Enfance, c'est que elle gagne le grand public en passant à un tout autre type de consécration, beaucoup plus individuelle, beaucoup plus autonome, et qui va durer jusqu'à la fin de sa vie, parce qu'après, comme beaucoup d'écrivains qui meurent âgés, elle est aussi fêtée pour son incroyable longévité, et tous ses textes suivants vont être... reconnus. C'est-à-dire que c'est une personne, c'est une écrivaine qui a eu une reconnaissance, on va dire, tardive, et qui commence à ce moment-là.
Oui, elle est née en 1900, elle est morte en 1999. C'est précis comme elle.
Oui, donc 83, elle a déjà 83 ans, comme on l'a dit. Et donc c'est une reconnaissance tardive, mais dont elle va pouvoir profiter, hein, puisqu'il lui reste encore 16 ans à vivre et plusieurs livres à écrire. Et donc après, elle va faire l'objet de reportages, de films, de... Voilà.
Mais sur la réception, peut-être plus pas académique, mais en tout cas la critique, comment est-ce qu'on lit ça à l'époque, justement, comme peut-être quelque chose qui est plus tellement dans l'air du temps, ou pas du tout?
Il faut aussi rapprocher ça des travaux maintenant qui ont presque aussi une reconnaissance grand public, puisqu'ils sont enseignés à l'école, au lycée, etc. Les travaux de Philippe Lejeune, qui sont tout à fait contemporains de la sortie de ce livre. Et il fait immédiatement de Sarraute une des autrices qui révolutionne l'autobiographie. Donc on n'attend pas quelquefois la reconnaissance universitaire, elle vient après la reconnaissance grand public. Mais là, elles sont complètement conjointes grâce à ses travaux, puisque dans un fameux livre, dans le fameux pacte autobiographique, mais dans les livres qu'il va écrire après, il va nommer un certain nombre de textes qui ont révolutionné l'autobiographie. Enfin, bien sûr, les mots. Le souvenir d'enfance, donc qui a été publié à peu près dix ans avant, en 1975 je crois, et Enfance de Sarraute. Après, il fera suivre ça de l'autobiographie de Rob Grillet, mais donc on a aussi une consécration de ce point de vue-là.
Colette Felous, est-ce que vous vous souvenez de votre première lecture de Enfance?
Quand il est sorti, moi j'étais une une lectrice, peut-être moins qu'une lectrice de Duras, mais une lectrice quand même de Sarraute. Donc j'attendais, on attendait avant les livres, c'est ça qui est... Comme on attendait les films, vous savez, il y en avait moins finalement, donc j'attendais et j'avais plongé dans ce livre, je la suivais vraiment de près, je retrouvais beaucoup de choses de, pas seulement de mon enfance, mais de toutes les enfances. Je trouvais qu'elle avait capté exactement les, il y a des choses tellement subtiles et fines. Non, j'étais épatée, je le suis toujours d'ailleurs, épatée par sa justesse. Voilà. Il y a par exemple, je sais pas si vous voyez un moment, c'est presque rien, mais elle est en face de son père la regarde, et elle dit qu'elle sent que son père trouve qu'elle ressemble à sa mère qui l'a quittée. Et donc elle dit, après coup peut-être, je sais pas si elle a fait à ce moment-là, qu'elle regarde un peu au loin, qu'elle prend les yeux de sa mère quand elle regarde au loin, qu'elle lève un peu la tête, qu'elle fait ça, et plus elle fait ça, plus elle sent son père la regarder encore plus, et c'est un petit moment très fragile, hein, mais qui est très très émouvant. Et il y a la deuxième voix qui vient et qui dit « Mais tu es sûre qu'il pensait à ça? Tu es sûre qu'il voyait le visage de sa mère ?» Et après, elle dit « Oui, oui, j'en suis presque sûre. » Et une phrase après dit que dans l'après-midi, ou je sais pas, il a parlé à quelqu'un d'autre et il a dit « C'est fou comme Natacha ressemble à sa mère, parfois. »
Écoutons Nathalie Sarraute, encore une fois, une archive de Lina.
Je cherchais un mot. Justement, aucun mot ne convenait. En réalité, aucun mot ne convient. Alors, comme il faut tout de même un mot, quelquefois, pour rendre une sensation. J'avais trouvé le mot « joie » qui était un pis-aller. Mais ça devrait se communiquer sans aucun mot de cet ordre-là. C'est un pis-aller, c'est une concession. Et j'ai essayé de montrer ce qu'il y avait sous ce mot « joie » d'indicible, justement. Je dis le plus possible de ce qu'il est possible de dire. J'essaye, avec les mots, d'atteindre le plus loin possible, ce qui d'habitude n'est pas mis en mots. Mais ce n'est pas du tout des choses que j'essaye de suggérer, du non-dit, ça n'existe pas chez moi.
C'est une sorte de lutte avec le langage. Enfin, qui
c'est
s'engage.
Une lutte pour que le langage arrive à aller aussi loin que possible, là où il n'a pas été encore, il me semble.
Aller aussi loin que possible, là où le langage n'a pas été encore. Tiphaine Samoyo, c'est magnifique cette archive.
Oui, c'est magnifique et c'est effectivement ce qu'elle recherche et c'est ce paradoxe aussi que j'évoquais tout à l'heure que on doit aller là où les mots ne sont pas allés encore, mais on doit y aller avec les mots. Alors on est sans cesse tiraillé entre le fait que le mot n'est pas là, il ne peut pas exister et en même temps qu'on doit le dire avec des mots. C'est ça qui est bouleversant et qui fait que on est loin d'un récit qui se résumerait à des vignettes d'époque. Et effectivement, il y a cette force que il y a une évocation d'une enfance située d'époque, marquée par des traits d'époque qu'on a mentionnés, mais c'est aussi toutes les enfances. Et justement, grâce à cette recherche de capter les tristesses enfantines, la solitude, le sentiment de différence, l'écart, enfin toutes choses que tout enfant peut ressentir indépendamment des drames et des joies particulières. Et donc on est loin de la comtesse de Ségur dans cette enfance qui, par certains côtés, d'ailleurs, la comtesse de Ségur, encore une Russe qui écrivait en français, mais donc dans cette enfance qui peut avoir des côtés protégés du point de vue social, effectivement, c'est une enfance européenne bourgeoise, mais aussi des côtés très peu protégés hein, dans les violences intimes qu'elle subit et qu'elle surmonte. Et c'est ça vraiment qui est puissant et qui fait que beaucoup de jeunes d'aujourd'hui se reconnaissent aussi dans ce livre et le lisent avec plaisir. Hein. C'est un texte qui est beaucoup lu par les adolescentes et les adolescents. Alors, c'est certes une prescription scolaire, mais il y a des prescriptions scolaires qui séduisent plus ou moins et je crois que celle-ci séduit beaucoup. Mmh. Et j'entends beaucoup de jeunes gens qui y font référence dans leurs premières années d'université, par exemple, qui l'ont lu plus tôt.
Oui, il était au programme, je crois, ou il est encore au programme de troisième.
Alors pour revenir un peu au contenu de cette enfance et à ses souvenirs d'enfance au pluriel, il y a quelque chose qui est absolument fascinant et c'est une expérience qu'on peut tous faire peut-être, en tout cas tous ceux qui ont vécu une enfance, pas forcément dans la langue dans laquelle ils vivent ensuite, c'est que ces souvenirs sont traduits en réalité. C'est-à-dire qu'il y a une traduction en fait de ces expériences en français, puisque bien sûr tout ça a lieu en russe. Et Quand elle dit à un moment les mots de chez moi, les mots solides que je connais bien, ce sont pas des mots français en fait, ce sont des mots russes. Toutes ces expériences, c'est la mémoire elle-même qui les traduit.
Oui, c'est au-delà des langues en fait. Hein. C'est vraiment comme on disait au début, comme on disait, une substance hein, qu'il faut ramener, qu'il faut. Et les mots sont, oui, elle dit, c'est vrai, les mots d'habitude sont solides, mais elle les rend solides, mais ils arrivent cassés presque, en morceaux, et de très loin. Et elle doit les traduire, en fait. Écrire ou travailler comme ça sur la mémoire, c'est aussi un travail de traduction, peut-être, aussi. On doit traduire.
Ça renforce, on doit traduire voilà.
À la fois des sensations, mais aussi une langue qui était un peu au-delà des langues, et on doit la traduire en mots. Donc c'est pour ça qu'il y a tous ces points de suspension, parce que c'est pas exactement ça, mais elle cherche aussi, elle tâtonne, et on a le plaisir aussi de l'écriture en mouvement et de la recherche. Oui, c'est une vraie enquête.
Alors effectivement, c'est une enfance qui est traduite, mais pas simplement en français. Elle est traduite justement dans une langue d'écriture où, comme vient de le dire Colette Fellous, les langues même disparaissent en tant que cadre normé, disons, d'expression. Et chaque langue aussi permet à l'autre de se dénormer. Et ça, elle s'en rend compte, je pense, dès l'enfance. C'est-à-dire que on évoquait tout à l'heure ce jeu entre soleil et sonjeu. Elle est en traduction dans son enfance, puisqu'elle passe constamment aussi d'un lieu à l'autre et d'une langue à l'autre. C'est-à-dire que, bien sûr, quand elle est à Ivanovo et quand elle est avec sa mère à Saint-Pétersbourg, elle parle russe. Mais à Paris, il arrive, lorsqu'elle a une petite sœur, enfin une demi-sœur, puisque son père et Vera ont une fille, Hélène, surnommée Lily, qu'elle vit hein, là aussi comme une intrusion terrible. Eh bien, la mère demande à ce qu'on parle français devant la petite pour que elle soit vraiment intégrée à la France, hein, comme on faisait beaucoup à cette époque-là. Et donc, elle mentionne que lui échappe du russe devant la petite. Donc, elle doit toujours contrôler aussi son passage d'une langue à l'autre. Et donc, c'est cette oscillation, hein, je pense, entre les langues, qui est aussi ce qu'elle essaye de retrouver dans l'écriture.
Mmh, oui, c'est exactement ça. Et aussi le passage d'un milieu social à un autre, parce qu'il y a toute une relation avec les bonnes qui est vraiment très, très intéressante. Hein. Il y a, par exemple, à un moment, quand elle va se promener avec la bonne qui s'appelle Gacha, je crois, et qu'elles sont devant une vitrine, et chacune regarde des chaussures vernies. Alors la bonne regarde des chaussures vernies à talons, noires, vernies, et elle, une paire de petites, des petites ballerines avec un talon un peu plus haut que celle qu'elle a d'habitude, et elle dit comme les adultes, et c'est pas grand-chose, mais il y a un ravissement comme ça de la captation d'un instant. En fait, ce sont toujours presque des instants, hein. C'est pas très long ce qu'elle raconte, hein. C'est souvent cette extension de petits paragraphes aussi, pas de paragraphes, de chapitres, deux pages, très court, une page et demie, deux pages, trois pages au maximum, et c'est comme... des instants de lumière.
Oui, il y a aussi une image qui est splendide et qui fonctionne aussi comme métaphore de cette enfance. C'est l'image du palais de glace qu'elle trouve dans un livre d'images et où elle explique que tout était en glace. Elle décrit très minutieusement tous les meubles, toutes les architectures, mais tous les meubles à l'intérieur, tout était en glace. Et les petits lustres en glace également étaient allumés de 1000 feux. Et transformait ce palais en lieu enflammé. Et donc ces contrastes aussi le palais de la mémoire, c'est ça. C'est un palais qui est fragile, qui est à la fois lumineux, transparent, opaque et tout prêt à fondre également.
Vous mentionniez les livres et les images d'enfance. C'est aussi une enfance d'écrivain, puisqu'elle nous raconte. Pas évidemment assez indirectement, une certaine éducation avec le livre. En tout cas, tous les livres sont présents presque à chaque page, les livres, les auteurs, il y en a beaucoup. Et on imagine très bien dans cette bourgeoisie russe du début du siècle, par exemple, ils jouent à un jeu Une espèce de
quatuor des écrivains.
Voilà, le quatuor des écrivains, qui est un peu un jeu de sept familles.
Oui, dans la famille Tourgueniev, je demande maître et serviteur.
Qui a la sonate à Kreutzer.
Oui, alors ça c'est pour Tolstoï.
Oui, c'est ça.
Et donc, il faut être quatre absolument pour jouer à ce jeu. Et c'est assez magique. Et est-ce que vous pensez, Tiphaine Samoyon, Colette Felous, que quand elle écrit ça, elle a la sensation de raconter aussi une vie d'écrivain, le début d'une vie d'autrice?
Oui, je pense. Peut-être que elle n'a pas décidé de faire ça tout de suite, enfin en écrivant, mais au fur et à mesure, on voit bien qu'elle cerne quand même que c'était un milieu où elle avait tout pour être écrivain. Cette sensibilité comme ça à tout geste, à tout mot, à toute intonation, à toute couleur, à tout décor. Ça, elle a jamais quitté, en fait. Elle a emporté toute cette sensibilité au fur et à mesure de sa vie pour déployer dans ses livres. Et là, enfin, peut-être aussi, ça commence comme ça. On dit, c'est pas l'âge, c'est pas à cause de ton âge que tu veux sauver ces souvenirs. Elle dit, non, je crois pas. En tout cas, je le sens pas. Mais en fait, je crois que c'est ça aussi. Elle a voulu éclairer peut-être toute son œuvre. Parce que ça éclaire quand même toute son œuvre.
Et d'ailleurs, le premier titre, le titre de travail d'enfance, c'était Avant qu'il disparaisse.
Ah ben voilà.
Et ensuite, la suite de son œuvre, et en particulier Ici ou Ouvré, sont des textes qui travaillent beaucoup sur les trous de mémoire, sur la difficulté à récupérer des mots perdus. C'est d'ailleurs très très beau et très poignant également. Et donc il y a bien cette idée. Et bien sûr qu'il y a du rétrospectif, mais qui n'est pas du tout pesant parce que il est seulement suggéré ou deviné par nous, lectrices et lecteurs de ce livre. Et en effet, la surprésence des livres, mais aussi de tous les gestes de l'écriture, les apprentissages de l'écriture, des lettres, le soin qu'elle met enfin, le soin véritablement, le care, qu'elle.
Le plaisir aussi.
Oui, le plaisir qu'elle a des lettres, de tracer des lettres, justement dans les deux langues, de l'une à l'autre, les couleurs qu'elle utilise. Et finalement, dès qu'elle va à l'école, ce plaisir aussi de la récitation, de la rédaction et même de la dictée, enfin de tout ce qui précède une autonomie, une émancipation de l'exercice vers l'écriture.
Oui, et aussi subtil que, comme on le disait tout à l'heure, on mentionne, comme ça, juste l'éditeur de sa mère. On sait que Kolia publie un livre d'histoire de l'Empire austro-hongrois à un moment. On sait, et comme si finalement.
Que son père aussi écrit.
Voilà, que son père, et ainsi de suite. Et on a un dessin, mais presque pointilliste, sans le vouloir, de cette enfance dans les livres et vers l'écriture.
Oui.
Et ce qui me semble assez fascinant dans Enfance, c'est de voir un livre qui finalement ne donne pas son objet. C'est-à-dire qu'il nous envoie vers quelque chose, mais sans réellement jamais y entrer. Et je trouve ça assez, assez fascinant, comment finalement cette enfance, elle s'arrête à un moment parce qu'on nous dit que voilà, ça, pour moi, ça correspond à la fin de l'enfance.
En sixième.
Elle va rentrer en sixième et surtout, elle découvre, et ça c'est fascinant parce que cette fin de l'enfance, elle découvre l'anglais. Et elle découvre l'anglais parce que effectivement, il y a une raison, c'est parce que sa belle-mère veut que sa petite fille, l'autre, celle, sa vraie petite fille, parle anglais. Et donc, elle se met à découvrir l'anglais. Et là, elle découvre une véritable autonomie, une véritable libération dans cette langue, parce que ça l'affranchit finalement des langues de son enfance, qui sont le russe et le français et l'anglais dont elle va faire ses études après. Enfin, ça va être très important l'anglais pour sa route. Et elle ne deviendra écrivaine qu'après avoir vécu en anglais, avoir fait des études d'anglais, avoir vécu en Angleterre. Et c'est quand même très frappant qu'il faut passer par une troisième langue pour pouvoir s'autonomiser aussi de la famille et de l'enfance.
Colette Felous.
Oui, c'est vrai qu'elle a commencé à Oxford, et après à Berlin, et après elle a fait des études de droit, elle a été avocate, elle n'a pas écrit tout de suite en fait, alors qu'elle avait tout pour écrire, c'est comme si elle avait fait des réserves de tout, et puis après s'épanouir. Mais moi j'ai pensé à une chose, c'est complètement... Comme ça, c'est une pensée fugitive, parce que dans sa famille, on gomme complètement qu'ils sont d'origine juive, presque rien et tout. Mais il y a un petit chapitre dans le Talmud, bon, je ne suis pas du tout spécialiste, mais j'aime cette histoire, c'est que on dit qu'avant de mourir, il faut, quand on quitte la vie, on doit porter un manteau qu'on a construit toute sa vie en patchwork avec des jours. C'est-à-dire qu'il y a un morceau, un jour, plus un jour, plus un jour, plus un jour, et on arrive et on dit, voilà, c'est moi, voilà mes jours. Et quand j'ai lu Enfant, je me suis dit, c'est vraiment ça. C'est elle par tous les instants qu'elle nous offre. Et tous les instants comme ça, un peu éparpillés dans sa vie, mais qu'elle a sauvé et qu'elle a recousu, en fait, pour faire un livre. Et j'adore cette histoire, en fait, de savoir qu'on est juste tissé de jours ou d'instants.
Merci beaucoup Colette Fellous et Tiphaine Samoyo de nous avoir accompagnés dans cette émission consacrée à Enfance de Nathalie Sarraute, réalisée par Laure-Hélène Planchet avec Amandine Frichou à la technique aujourd'hui. Merci beaucoup à Aurélie Marseille qui m'aide à préparer ces émissions. Nous nous retrouvons demain à la même heure pour les romans qui ont changé le monde. Nous visiterons cette fois-ci le Portugal de José Saramago avec L'année de la mort de Ricardo Reis. À demain.